Christophe Gossin, bonjour.
Bonjour Didier Tesseur.
Vous êtes le PDG du groupe Gossin. À parler avec vous de votre actualité, vous avez rencontré des investisseurs à Paris aujourd'hui. Les investisseurs qui regardent l'actualité du groupe, au cours des derniers mois, il y a eu pas mal de choses. Ça a été compliqué pour vous. Il y a eu l'autorité des marchés financiers qui a émis des sanctions contre vous, contre la société, contre un intermédiaire. Si on revient un instant d'abord sur ce plan-là, est-ce que ce qui a été, ce qu'on a pu voir dans la presse peut avoir des conséquences pour Gossin ?
Alors, moi, je suis content de m'exprimer sur ce sujet, puisque finalement, c'est la première fois que je peux le faire. Donc, l'AMF a ouvert une enquête suite à la mise en place d'une equity line, GEM, donc la possibilité de faire des tirages sous forme d'augmentation de capital. Sur une période qui pouvait s'écouler sur 5 ans, on pouvait tirer 10 millions d'euros avec la société GEM. Donc l'enquête a été ouverte dans ce sens et on est quelque part, non pas content, mais que l'AMF ait mis une hiérarchie normale et que finalement ait infligé une sanction d'un million d'euros à GEM et de 100 000 euros à Gossin, ça nous semble remettre les choses à peu près dans un ordre qui nous paraît logique, pas au niveau des montants des sanctions, mais en tout cas qui est une logique par rapport à la décision de l'AMF. Ça nous ramène aussi à une époque qui est finalement lointaine, puisqu'il s'agit de fait de 2010-2011, où la société n'était pas structurée, c'était assez difficile dans le sens où c'était une période d'investissement avec peu de chiffre d'affaires. Et donc, on a aussi commis quelques erreurs, je reconnais, notamment de déclaration de titres, sachant qu'on était un peu novice, on passait du marché libre directement sur marché alternet. Donc, on avait quelques méconnaissances, on a réparé, si on peut dire, en faisant des déclarations, mais tardivement. Donc, et ensuite, le principal, on va dire, différent, c'est l'approche de la comptabilisation du carnet de commandes. L'AMF ayant un avis différent, séparant le chiffre d'affaires de, en tout cas le carnet de commandes, puisque justement on est encore au-dessus du chiffre d'affaires, les reproches sont faites sur le carnet de commandes. Et donc l'AMF, quant à elle, dissocie le carnet de commandes relatif à l'allocation et celui de l'activité normale qui se traduit par un carnet de commandes qui va faire des ventes. Donc on part du principe que tout commande ferme ou location ferme qui génère du chiffre d'affaires doit rentrer en chiffre d'affaires. C'est notre conception du carnet de commandes. Et donc on a décidé de faire appel de cette décision, de cette condamnation de la société Gossin à 100 000 euros, pensant qu'on n'a pas été complètement entendu pendant cette période. Et qu'on a des arguments sérieux à faire valoir, que ce soit avec nos conseils, avec nos comptables, et que depuis, on s'est largement structuré, on a renforcé les équipes, notamment avec l'arrivée d'un directeur financier. Mais ça fait maintenant 3 ans que chaque communiqué de presse fait l'objet d'un travail en concert avec les commissaires aux comptes, parfois les juristes. On a mis aussi en place une nouvelle structure de communication. Et donc on essaie d'apporter l'information la plus sérieuse telle qu'attendue par l'AMF et souvent on soumet nos projets de communiqué de presse au préalable à l'AMF et bien sûr on prend en compte leurs recommandations à titre consultatif. La responsabilité au final reste toujours celle de l'émetteur et donc on pense qu'on apporte une information qui est convenable, qui convient aux règles établies par l'AMF depuis maintenant 3 ans.
Alors voilà pour ce sujet, on a vu aussi récemment qu'il y avait un décalage sur la publication des comptes, hein, vous allez les publier un peu plus tard, c'est lié à un contrat en particulier ?
Alors oui, donc c'est bien de voir un peu la genèse. Donc on a signé une licence avec l'État indonésien, ce qui n'est pas rien. On rappelle l'importance du développement en Indonésie, où le nouveau président Jokowi a annoncé 9 milliards d'investissements pour la construction de 34 nouveaux terminaux portuaires et puis la modernisation de ceux existants. Donc c'est un potentiel important pour nous. Et donc on a, après avoir livré 50 véhicules au port de Surabaya en Indonésie, donc on a trouvé intéressant avec notre partenaire de pouvoir capter tout ce marché futur et futur proche de l'activité portuaire qui concerne la modernisation des infrastructures logistiques en général. Donc dans le cadre de cet accord, on est parti sur le principe de pouvoir eh bien, vendre du transfert de technologie pour une dizaine de millions d'euros. Et cet accord a eu lieu entre Noël et Nouvel An l'année dernière. Mais pour que les commissaires aux comptes puissent préciser la manière dont ils comptabiliseront ces 10 millions d'euros, à savoir est-ce que ces 10 millions d'euros doivent impacter pleinement l'exercice 2014 ou l'exercice 2015, ou s'agit-il d'étaler le produit de ces 10 millions sur 10 ans, puisque c'est la durée de l'exclusivité, eh bien ils ont besoin que les accords de joint venture soient signés également. Et ces accords de joint venture sont en cours de négociation. J'étais encore il y a 10 jours à Jakarta. Bon, c'est pas le meilleur moment parce qu'on est en plein Ramadan et vous savez que c'est le premier pays musulman au monde, en Indonésie. Mais on a bon espoir que les accords soient signés cet été et qu'on puisse, donc lors du communiqué de presse, puisque on s'est donné donc un peu plus de temps pour donner du confort, et ça me paraît raisonnable et normal de se donner du confort pour que soit appréciée correctement l'écriture comptable. Donc on communiquera lors des comptes, donc c'est prévu de mémoire le mardi 15 septembre, on doit communiquer les éléments complets avec tous les documents relatifs à la clôture de l'exercice 2014.
Est-ce que ça peut constituer pour vous, on voyait des analystes réfléchir sur un nouveau modèle économique pour Gossin, cette idée de d'avoir des licences, puisque ça pourra concerner aussi peut-être d'autres projets à l'avenir?
Ben on a effectivement, on a plusieurs sources de revenus. Bon, bien sûr, les premiers revenus proviennent de la vente des équipements, mais aussi de tous les services associés. Donc, on distingue les revenus de maintenance, les revenus de vente de pièces détachées, mais aussi locatifs, puisque tout ça, bien sûr, est porteur de marge. Et puis, on a effectivement la possibilité ponctuellement de signer des accords qui font du sens. Avant tout, un accord de licence correspond à une manière de distribuer dans un pays étranger. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir valoriser nos efforts de recherche et développement, de pouvoir dire, nous on a mis 5 ans, 6 ans à mettre au point le produit, vous accédez immédiatement à la techno, pour ça on vous demande de payer un savoir-faire, une partie R&D parce que c'est un accès immédiat, mais aussi une exclusivité sur le territoire. Donc on a des discussions actuellement, effectivement, sur des pays importants où ça fait du sens pour différentes raisons politiques, parfois parce que la société a un format qui reste petit par rapport aux gros appels d'offres auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, le port de Singapour, qui a annoncé encore dans la presse il y a une dizaine de jours, l'investissement pour réaliser un terminal portuaire gigantesque qui va faire 65 millions de conteneurs par an. Et là, bien évidemment, on a l'idée de trouver un rapprochement sous forme de licence avec un partenaire local pour répondre à ces appels d'offres qui représente plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années.
Pour vous, aujourd'hui, clairement, l'Asie, hein, toute cette zone, on a parlé de Singapour, on a parlé d'Indonésie, c'est celle qui, aujourd'hui, vous amènera le plus de croissance?
Ça correspond à finalement quelque chose de très naturel, c'est quand il y a la route de la soie menée par bateau, où il y a 65% des échanges qui se passent dans ce nœud-là, entre les détroits connus, entre la Chine, Singapour, l'Indonésie. Donc, et puis il y a un time to market actuellement pour aller sur du full automation. Donc les terminaux portuaires, il y a encore 3 ans sur la Chine, on nous disait la main-d'œuvre n'est pas chère, mais en fait l'automatisation correspond déjà à un problème de sécurité. Il y a tous les ans, il y a encore des personnes qui décèdent sur les terminaux portuaires, c'est de manière assez importante. L'automatisation, c'est vraiment la réponse idéale, forcément, puisqu'il n'y a plus personne autour, et ça correspond aussi à une logique de productivité. Singapour, c'est 300 000 conteneurs par jour, et il y a une limite à la gestion humaine, donc c'est l'automatisation. Donc en ce moment, il y a de nombreux appels d'offres. D'ailleurs, on a communiqué sur un appel d'offres à Tsingtao, où on a eu le résultat, puisque c'est public. Et donc, on est 3 concurrents à avoir répondu. Il y a le leader allemand, et il a répondu avec un prix qui est 70% plus cher que le nôtre. Et on a aussi un Chinois, et on est assez content d'avoir pu remettre des prix moins cher, 7% moins cher. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un véhicule qui est conçu différemment, qui est déjà 2 fois plus léger. Donc il y a le véhicule concurrence fait 40 tonnes, le nôtre fait 20 tonnes. Donc, par conséquent, le dimensionnement des composants est différent et nous sommes beaucoup moins chers en prix d'achat. Et ensuite, je pense qu'on a fait un grand bond en avant grâce à l'association avec BA System, cette très belle société installée à Rennes, qui a plus de 250 sites installés dans les centres logistiques. Et qui a eu aussi le prix de la robotique l'année dernière, le prix mondial de la robotique remis à Shanghai sur une application avec General Electric Healthcare. Et on a fait un grand bond en avant. Alors, ça ne se voit peut-être pas à travers les chiffres et tout ça, mais la Cité Gossin maintenant offre une solution plug and play, c'est-à-dire qu'on offre finalement le hard qui est le véhicule, le soft qui sont les logiciels, les interfaces à créer sur un terminal portuaire pour se plugger en quelque sorte au système de gestion, interface du terminal portuaire.
Le mot de la fin, on a vu, ça a été assez agité sur cette année 2015 pour vous. Quand est-ce que les actionnaires vont pouvoir retrouver un peu de calme
Alors, je profite pour parler directement aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on a un fort décalage entre le temps nécessaire pour mettre au point le produit et l'arrivée des produits sur le marché. Pour la plupart des personnes, la TT, l'AIV, c'est derrière nous. Alors, en fait, c'est seulement aujourd'hui que l'histoire démarre au niveau commercial, puisque, par exemple, le port de Surabaya, on a fait l'inauguration avec le président indonésien. Il était présent, il a vu des véhicules fonctionner en tout automatique. Et donc, la perception des clients, le terminal a été ouvert il y a 15 jours, et c'est seulement maintenant, lors de l'inauguration, on a eu la chance, ils ont invité plus de 500 personnes, et donc des représentants des terminaux portuaires de l'ensemble de l'Asie. Et c'est seulement il y a 15 jours que les opérateurs portuaires ont pu voir des ATT lift en opération. Donc c'est le message que je veux faire passer, il y a un fort décalage. Et puis après, on a des cycles. Sur Abaya, ils ont été en retard de l'ordre d'un an et demi. Alors c'est vrai que c'est un nouveau terminal, c'est peut-être un peu particulier. Donc je voudrais quelque part rassurer les actionnaires en disant on est embrayé depuis 2 ans sur la commercialisation. À ce jour, on a quand même 110 millions d'euros de carnet de commandes en incluant les contrats de location à 5 ans, qui représentent à peu près 50 millions sur une période de 5 ans, alors qu'il y a encore 4 ans, on faisait zéro de chiffre d'affaires sur cette activité. Alors, c'est beaucoup, pas beaucoup, mais ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'on est aussi shortlisté par le port de Shanghai, et on attend des réponses sous 3 mois, et le port de Shanghai, c'est la référence, puisque c'est le premier port mondial. Ils aiment vraiment le véhicule. On a fait de fortes avancées avec eux puisqu'on a fait ce qu'on appelle des proof of concept. Ils ont vu du matériel fonctionner exactement à l'identique sur notre site d'Héricourt que sur leur futur site à Shanghai.
Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Christophe Mansin.
Merci à vous, Didier Testeux.